Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Chrétienté, dirigé en première partie par Guillaume de Thieulois et en seconde partie par Daniel Amiche. Émission préenregistrée le 16 avril 2014 et le 30 avril 2014, diffusée pour la première fois jeudi 1er mai 2014, de 18h à 21h. Il est diffusé également vendredi 2 mai dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Benoît. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres sont les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.
Chers amis auditeurs, rebonsoir. Donc, comme on vous l'a dit en tout début d'émission, c'est une émission qui a été préenregistrée. Vous l'écoutez ce soir, jeudi 1er mai, mais elle a été enregistrée le mercredi 16 avril pour des questions de commodité, puisque l'ensemble des invités que je souhaitais avoir dans cette émission, pour certains, ne pouvaient pas être avec nous aujourd'hui. Nous avons la joie d'avoir dans le studio aujourd'hui Hubert de Torcy. Bonsoir Hubert de Torcy.
Bonsoir Daniel.
Vous êtes rédacteur en chef de L'Invisible et vous êtes aussi directeur d'une société de production qui s'appelle La Sage. S-A-G-E. Qui est la maison de production qui a acquis les droits de distribution en France d'un film que tout le monde attendait, enfin que beaucoup de gens attendaient, en tout cas beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie, qui est le film donc dont le titre en français sera Christeros.
Exactement.
Et puis nous avons également Arnaud Boutéon. Bonsoir Arnaud.
Bonsoir Daniel.
Alors les auditeurs vous connaissent peut-être, vous êtes déjà venu une ou deux fois à la radio.
C'est fort probable.
C'est fort probable, n'est-ce pas? Alors Arnaud est un consultant en mercatique, il est surtout le coordinateur d'un numéro spécial de L'Invisible, c'est-à-dire le mensuel gratuit de notre ami Hubert de Torcy, qui va être, c'est pour vous dire si je suis quand même une bonne personne, qui est consacré au football. Attendez. Bon, fouet et football, faut le faire quand même.
Comment on dit? La balle au pied.
Bon. Alors, c'est incroyable, mais je trouve que l'idée était très, très amusante, enfin, très intéressante, en tout cas, pour, pour l'apologétique et même pour la mission. C'est pas assez intéressant, donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de vous inviter ce soir à présenter ce projet à nos amis auditeurs de Radio Courtoisie. Également, une autre personnalité très, très connue des auditeurs de Radio Courtoisie, d'ailleurs, je ne sais pas si je vous présentez, vous êtes imprésentable, vous êtes tout à fait présentable, c'est pas la peine de présenter, tout le monde vous connaît.
J'ai mis ma cravate ce soir, mon cher Daniel.
Montrez-la bien au micro que les gens la voient, parce qu'elle est très très belle en plus. Donc c'est Philippe Maxence, qui est, comme chacun le sait, donc rédacteur en chef de L'Homme Nouveau, c'est aussi un écrivain, mais c'est aussi un patron d'émission sur Radio Courtoisie. Et là, il vient nous voir ce soir en tant que Chestertonien, on peut dire, n'est-ce pas, Chestertonien, puisqu'il dirige aussi un blog qui s'appelle Un nommé Chesterton.
Un blog et qui est le blog en fait
de l'association des amis de Chesterton, de GK Chesterton. Voilà, Chesterton. Mais il vient nous parler ce soir d'un petit livre qui vient. Petit livre, je dis petit parce qu'il est petit. Hein. C'est un petit livre qu'on peut avoir dans sa poche, même dans.
C'est un format de poche, effectivement.
Format de poche. Hein. Magnifique petit livre qui est à la fois un thème qui intéressera tous les amis de Chesterton, mais aussi tous ceux qui se préoccupent d'un certain nombre de problèmes de société qui se posent aujourd'hui, pas seulement en France, mais dans le monde, puisque le thème de ce petit livre publié aux éditions Via Romana est Chesterton face à l'islam. Ah, bah dites donc, c'est quand même très intéressant. Alors voilà, et nous aurons peut-être, enfin j'espère, je ne sais pas, mais enfin parce que nous devrions avoir aussi notre ami Maître Jérôme Triomphe en fin d'émission pour sa chronique habituelle dans cette partie d'émission. Mais je pense qu'il arrivera un petit peu plus tard, parce que nous sommes en plein après-midi, nous ne sommes pas le soir, voilà. Et puis nous avons également au téléphone, c'est un petit peu aussi la bonne surprise pour nos amis auditeurs, un ami prêtre qui est à Lyon d'ailleurs, et il se trouve que c'est l'abbé Hervé Benoît. Bonsoir monsieur l'abbé Benoît.
Bonsoir cher Daniel.
Cher abbé Hervé Benoît, donc vous êtes, je rappelle pour nos amis auditeurs, à part que vous êtes un chroniqueur à la Nef, que vous êtes auteur d'un certain nombre d'ouvrages, dont certains vont d'ailleurs bientôt sortir, nous aurons l'occasion de nous en réentretenir, je l'espère, dans ce studio de Radio Courtoisie. Vous êtes aussi chapelain de la basilique Notre-Dame de Fourvière, est-ce bien cela?
Oui, tout à fait. Depuis maintenant un an et demi, avec grande joie, dans ce haut lieu de la capitale des Gaules.
Eh oui, c'est un haut lieu de la catholicité, quand même. Je me faisais, en venant, je vais raconter l'histoire, c'est quand même extraordinaire, parce que le premier évêque de Lyon, c'est Saint-Irénée, je me trompe ou pas ?
Oui, absolument.
C'est ça.
C'est pas le premier.
Non.
Enfin, c'est le plus connu, en tout cas.
Et Saint-Irénée, au témoin d'un doute, est bien le disciple de Saint-Polycarpe.
Absolument, lui-même disciple de Saint-Jean.
Eh ben voilà. Alors oui, ça fait quand même des généalogies courtes, hein.
Absolument.
C'est quand même magnifique, quand même. Faut le faire. Bon, donc il a eu comme des informations, le cher Irénée, de première main, si je puis dire, sur Saint-Jean l'évangéliste, grâce à Saint-Polycarpe. Faut le
Exactement.
Faire. Tout ça, c'est assez...
On bon. Ne vous cache rien, une fois de plus.
Ben ben... J'espère. De toute façon, j'ai les moyens de vous faire parler. Hein. Bon. Mais alors, cher Abbé Hervé Benoît, je vous ai prié là, de nous parler quelques minutes au téléphone au sujet d'une belle initiative et qui va être un petit peu en consonance avec le sujet que nous allons traiter, sitôt que vous aurez parlé du vôtre, avec notre ami Hubert de Torcy sur le film Les Christeros.
Oui, en effet, à l'initiative donc du recteur de la basilique, Monseigneur Patrick Le Gall, j'invite les auditeurs de Radio Courtoisie, et spécialement ceux qui habitent dans la région de Lyon et les alentours, à venir à Fourvière le 31 mai prochain, car figurez-vous, nous y allons y installer en grande solennité l'image de Notre-Dame de la Guadeloupe,
magnifique.
La reine des Amériques.
Magnifique, mais c'est extraordinaire. Mais pourquoi vous faites cela particulièrement pour Notre-Dame de Guadeloupe ?
En fait, si vous voulez, Lyon, qui est une ville aussi, depuis Saint-Irénée, tournée vers le monde, et d'autant plus catholique, à l'intérieur de la basilique de Fourvière, dans la crypte, ont été installées au cours des années de nombreuses chapelles et hôtels dédiés au grand sanctuaire Mario du monde. Ça va de Notre-Dame du Liban à Notre-Dame de Fatima, en passant par Notre-Dame de la Naval à Manille, etc. Voilà. Et donc, il manquait bien évidemment Notre-Dame de Guadeloupe, le principal sanctuaire d'Amérique, pour que ce parcours marial se complète.
Allez, elle a le titre d'impératrice des Amériques, Notre-Dame de Guadeloupe. Donc pas seulement pour nos frères d'Amérique centrale ou du Sud, puisque le Mexique est l'Amérique centrale, si mes souvenirs géographiques ne sont pas trop mauvais, je crois qu'ils sont au monde d'ailleurs, mais aussi d'Amérique du Nord, États-Unis et Canada quand même. C'est pas mal, hein, tout de même.
Voilà, donc elle avait évidemment sa place dans cette couronne, de la couronne de la Vierge, si j'ose dire.
Parfait. Alors, le 31 mai, qu'est-ce qui va se passer donc, exactement ? Comment ça va se passer ?
Voilà, donc nous avons reçu directement depuis Mexico une belle et grande image de la Madone, que nous allons donc installer solennellement en présence du cardinal Barbarin, de Monseigneur Le Gall, ainsi que d'autres autorités ecclésiastiques, et puis des représentants du corps diplomatique d'Amérique du Sud, en particulier, je crois, si ce n'est l'ambassadeur du Mexique en France, au moins son représentant spécial. Voilà, et puis j'espère aussi grand concours du peuple chrétien pour nous mettre en lien spirituel et avec l'autre événement, je dirais, qui intéresse le catholicisme d'Amérique du Sud, qui est la sortie en France et à Lyon tout particulièrement.
Voilà.
Je crois que Monsieur de Torcy travaille tout spécialement
et comment, oui.
du film Les Christeros.
Des films Les Christeros qui sort donc en principe le 14 mai, qui commencera à être dans les salles à partir du 14 mai. Je rappelle
voilà,
aux auditeurs que...
Vous avez dit très justement que c'était une sorte de pendant spirituel à cet événement culturel.
Exactement.
Et nous nous en réjouissons beaucoup.
Exactement. J'ai eu peur à un moment que vous me parliez que comme pendant culturel qui intéresse tous les catholiques, la Coupe du Monde de foot de balle au pied qui va avoir lieu au Brésil, j'ai eu peur tout à coup parce que nous allons aussi parler de balle au pied, figurez-vous. C'est vous dire si je suis éclectique.
Qu'est-ce que vous voulez ? Je pense que la Madone est très très sollicitée dans ces domaines aussi.
C'est une bonne personne. En tout cas, c'est une bonne personne, on peut être tranquille. Donc il n'y a pas de souci. Bon, cher abbé, alors on peut se renseigner de toutes ces choses sur le site de Fourvière, je suppose. C'est donc
voilà, le sanctuaire de Fourvière a un site qui est très facile de trouver en tapant Notre-Dame de Fourvière et sanctuaire sur Internet,
oui.
Et on y trouvera donc tous les renseignements. Donc cette fête aura lieu
le
31
voilà.
mai prochain à 16h.
Donc ce sera un samedi le 31 mai,
voilà,
c'est cela.
Samedi après-midi suivi de la messe.
Suivi d'une messe.
Toujours par
tout
le cardinal Barbarin.
Un peu de religion tout de même. Bon. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup, cher. Abbé Hervé Benoît de ces informations qui sont tout à fait enthousiasmantes. Moi, je suis très c'est parfait quoi, c'est une très très belle chose. Et puis bravo à tous ceux qui ont eu cette initiative et à tous ceux qui comme vous et d'autres eh ben la mènent à bien. Et puis bienvenue à Notre-Dame de Fourvière, à Notre-Dame de Guadeloupe. Voilà.
Merci. Merci à vous, merci aux auditeurs et à très bientôt, cher Daniel.
Que Dieu vous garde et à très bientôt. Merci, cher monsieur l'abbé. Voilà, c'était donc le monsieur l'abbé Hervé Benoît, qui est le chapelain de la basilique Notre-Dame de Fourvière à Lyon, la grande métropole des Gaules. Alors, puisque nous parlions de Notre-Dame de Guadeloupe, et c'est peut-être le moment de parler de l'un des sujets principaux de cette émission, qui est donc la prochaine sortie sur des écrans français du film Christeros, hein, ce sera donc le troisième nom de ce film, puisque la version espagnole, mexicaine en vérité, c'est Cristiada.
Cristiada, oui.
Et puis la version américaine, c'était For Greater Glory. Pour la plus grande gloire. Là, non, on peut. Encore, c'est des titres, on peut. D'abord, Shakespeare, pas exagéré quand même. Voilà. Et là, bien, il a fallu trouver en français, finalement, le nom qui parlait le plus aux Français, et c'est évidemment le nom Christeros, puisque d'ailleurs, je rappelle qu'un très bon livre apparu aux éditions de L'Homme Nouveau.
La véritable histoire des Christeros par
Hugues Kerali.
Hugues Kerali,
qui est un très, très, très beau livre, qui vient d'être réédité, retiré, parce que ça c'est le livre qu'il faut aussi lire en même temps qu'on voit le film. Alors, c'est vrai que ce film... Enfin,
le lire soit avant, soit après, peut-être pas en même temps, parce qu'il faut mieux voir le film.
Bien sûr. Mais, alors, après, je perds le film, je suis un vieillard, moi, donc il ne faut pas me faire perdre le film comme ça. Alors, donc, Christeros. Voilà, Christeros, c'est ça dont on va parler. Et c'est vous qui allez en parler, mon cher Hubert de Torcy, c'est pas moi. Mais le film est sorti, je pense, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant.
Exactement, hein, il est sorti en 2012 aux États-Unis, au Mexique.
Au Mexique. Il a marché pas mal aux États-Unis.
Très bien, il a fait 3 millions d'entrées voilà, au Mexique, 1 million d'entrées à peu près aux États-Unis.
C'est pas mal, hein, c'est bien. Bon, c'est pas énorme succès aux États-Unis. Mais enfin, au Mexique, c'est un film qui continue encore, figurez-vous, continue encore à avoir du succès, puisque voici 4 semaines, dans la première partie du Libre Journal de Chrétienté, que j'anime de conserve avec l'ami Guillaume de Thieulois, il avait un correspondant par téléphone du Mexique, figurez-vous, qui justement lui a fait une recension brève, parce que ça coûte cher le Mexique, hein, mais qui lui a fait une recension très brève de l'accueil du film Christeros, enfin Cristiada là-bas au Mexique, et ça continue encore à drainer les foules. Alors ce film, bah, évidemment, on voyait très bien que ce serait compliqué d'avoir ce film en France, vous savez qu'on a failli ne pas avoir la passion de Mel Gibson dans les salles françaises. Bon, c'était quand même bien dommage. Comment vous y êtes-vous pris? Pourquoi est-ce que vous avez eu l'idée de vous, patron de la SAGE, avec un J, S-A-J-E, comment avez-vous eu l'idée de vous intéresser, d'acheter les droits de distribution en France, et quelle a été la réaction du producteur de ce film? Vous avez dû être surpris.
Alors, il était surpris, oui et non, parce qu'en fait, il a eu une déconvenue avec quelques mois auparavant, avec la sortie en Espagne du film. C'est-à-dire qu'il a voulu sortir le film en Espagne directement en mandatant la Fox, qui avait aussi sorti le film au Mexique. Et donc il a piloté ça de loin. La Fox en Espagne lui a demandé plusieurs centaines de milliers d'euros et elle a voulu traiter ça comme un blockbuster classique, hein, puisque c'est
on dit un film à grand budget ou un film
un film
faire attention. Alors on va mettre une petite pièce dans le cochon tout à l'heure. Voilà.
Je vais faire le truchement pour le cochon. Oui.
Là vous allez voir, ça va vous coûter cher la production cinématographique. Vous allez voir.
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'anglicisme dans ce métier. Donc bref, il a versé beaucoup d'argent parce qu'ils ont voulu le traiter donc comme un film à gros budget, vu qu'il y avait un gros casting.
Je sais pas si... Oh là là, ça non plus, on n'a pas le droit. Une belle distribution. Distribution en français. Distribution des rôles.
Ruiné, je sens.
Et deux, oui. Voilà.
Bref, merci. Du coup, donc on a eu une... Donc avec Andy Garcia, Eva Longoria, Peter O'Toole, donc il y avait des grands acteurs très connus.
Du monde hollywoodien, oui.
Et du coup, ils ont pensé faire une distribution classique avec beaucoup d'investissements, achat d'espace dans le métro, etc. Et donc il a dépensé beaucoup d'argent. Ils n'ont pas su mobiliser le réseau catholique autour du film parce que c'est pas leur habitude, c'est pas leur voilà. Et du coup,
ce qu'on appelle une niche, c'est oui, ça, monsieur le spécialiste de la mercatique, Arnaud Boutet, on
appelle ça exactement niche, ça. Hein.
Et donc,
une grande niche.
Ne sachant pas communiquer auprès de cette niche, et puis cette niche ayant une particularité, ça je suis assez convaincu, c'est que souvent elle va au cinéma pour aller voir un film une fois qu'il n'est plus à l'affiche. C'est-à-dire qu'elle arrive trop tard. En fait, le film reste une semaine, deux semaines, et puis après ça, bah, comme ils ne sont pas venus, justement, il ne reste pas l'affiche. Donc, c'est ce qui s'est passé en Espagne. Donc, au bout d'une semaine, le film a disparu de l'affiche, tellement les scores étaient pitoyables. Et donc, ça a été un peu un gros bouillon. Et du coup, il avait lui-même la conviction que voilà, ce n'était pas le bon mode de distribution pour un film comme celui-là, qu'il fallait avoir des convictions, il fallait être capable de rejoindre le public pour lequel il a aussi été réalisé, pas seulement. Hein. Je pense que c'est un film qui peut rejoindre un public beaucoup plus large que le seul public catholique. Mais en tout cas, ça serait bête de s'aliéner ce public-là. Et donc, voilà, lui-même cherchait plutôt, non pas un distributeur classique pour la France, mais un distributeur qui sache rejoindre ce public catholique.
Donc c'est lui qui a fait la démarche de vous contacter?
Alors non,
comment ça s'est passé?
Ça a été un peu compliqué. Moi, j'avais fait une démarche pour essayer de le contacter. Mais
le producteur est mexicain ou...
Mexicain. Oui, tout à fait. C'est un film mexicain, même si jamais la version originale est en anglais. Il a été de fait construit aussi pour plaire au public américain. Voilà, c'est un film mexicain. J'avais cherché à le contacter, mais j'étais passé par son assistante. J'avais une conversation avec elle par téléphone. Et puis, ça n'avait pas donné de suite. Ça, c'était l'été dernier. Et puis, quelques mois après, j'ai appris que deux amis lyonnais qui avaient vu le film, qui avaient aussi été emballés, qui s'étaient dit également, ben, il faut absolument que ce film vienne en France. Voilà, avait réussi par des liens de parenté, lui est argentin, enfin bref, à avoir un contact avec Pablo Barroso, qui est le producteur. Et ils l'ont rencontré à l'occasion d'un de ses passages en Europe, à Rome en l'occurrence. Et puis là, ils ont pu signer un contrat avec lui. Et ensuite, ils se sont rapprochés de moi et voilà, et on a pu et on mène donc cette aventure ensemble.
Alors c'est une sacrée aventure d'abord parce que c'est comme un risque financier, comme il faut dire les choses.
Ah oui,
comme
de fait,
sont,
ça, ça coûte beaucoup d'argent. Alors, pas à cause du producteur, mais c'est vraiment déjà pour avoir les films, la version française, la version originale sous-titrée en français avec des cartons en français, etc. Enfin, dans un format DCP susceptible de passer en salle, ça coûte beaucoup d'argent.
DCP, c'est quoi? C'est du numérique ou je sais pas quoi?
Alors, je vais pas oser dire ce que c'est parce que je vais avoir, ça va me coûter trop cher, c'est en anglais en plus.
Mais, digital, machin,
ouais, voilà,
truc.
Exactement.
D'accord, oui.
C'est comme disque dur, quoi. Maintenant, c'est du numérique.
C'est du numérique. On ne tourne plus avec de la pellicule, c'est fini. Hein.
Alors, exactement.
C'est terminé. Même les petits films à petit budget tournent
surtout,
directement.
Surtout, ça coûte quand même moins cher que.
Ça coûte moins cher. C'est plus souple après pour le montage. On aura les mêmes problèmes de. Comment on appelle ça, technique, hein, d'égalisation du son, des couleurs, des intensités lumineuses, mais ça se règle avec les machines comme on le faisait autrefois. Bon. Alors, c'est quand même très, très, très intéressant. La question, c'est combien de temps vont durer les supports informatiques? Ça, on n'en sait rien. Alors, ça, c'est un gros problème. Est-ce que ça va pas au bout de 100 ans s'auto-bouffer? On n'en sait rien du tout. Alors, donc, la question, non, mais c'est vrai, c'est important, hein, parce qu'on vous vend des CD ou des DVD en disant, ah là, c'est pour la vie, c'est pour l'éternité. Ça, c'est pas vrai, hein. Ça, c'est pas vrai. Je suis sûr qu'ils mettent des puces dedans pour les autodétruire au bout de 30 ans pour qu'on rachète. Bon, ça, c'est mon côté un peu schizo. J'aime bien, de temps en temps, sur Radio Courtoisie, les gens aiment bien que je fasse un peu le schizo. Donc, cette affaire... Alors, le film... Tiens, question. Le film, je me posais la question mentalement. Le film sera... à la fois en version française et en version originale sous-titrée. Il y aura la possibilité de voir l'un des deux, n'est-ce pas?
Donc, je pense que les grandes salles proposeront les deux versions. Et puis ensuite, voilà, en fonction des habitudes des salles, elles prendront VO ou VF en fonction de leur public aussi.
Du public, voilà. Bien sûr. Je pense que Philippe Axence a une question à poser à notre ami.
Oui, Hubert de Torcy nous a expliqué comment effectivement il avait pris contact avec le producteur, mais moi j'aimerais savoir pourquoi en fait il s'est intéressé à ce film-là. Proprement dit. Ouais. Pourquoi toute cette démarche pour donner au public français la possibilité de voir Les Christes et Roses?
Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que comme beaucoup de personnes, d'ailleurs par le truchement de Daniel ici présent, j'avais repéré ce film quand il est sorti aux États-Unis. J'ai vu la bande-annonce, j'étais fasciné, je me suis dit enfin, on met des vrais moyens quoi, pour faire un film qui parle en bien des prêtres, des chrétiens de manière générale, qui raconte une belle épopée avec des exemples de martyrs édifiants. Et je me désespérais de le voir arriver un jour sur les écrans, puisque sur Allociné, il était toujours marqué prochainement, distributeur inconnu. Donc, tant qu'il n'y a pas de distributeur, en fait, il ne passe pas. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est la première raison. C'est que je m'étais dit, c'est trop dommage, quoi, hein, qu'on passe à côté de ça. Et il y a d'autres films comme ça. En fait, il y a plusieurs films qui ont été faits par des chrétiens, qui sont de très bonne qualité, de qualité cinématographique, qui n'existeront pas en France si personne ne les prend. Parce que, pour plein de raisons en fait, pas forcément pour des raisons... La Passion du Christ, objectivement, il y a eu une sorte de peur hein, de la part des distributeurs après tout ce qui avait été dit comme quoi c'était un film antisémite, etc. Personne n'osait prendre le film en distribution. Pour ce film-là et pour les ceux dont je parle, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de cabale a priori sur ces films-là. Il y a juste une méconnaissance, d'abord, de la part des producteurs de ces films, des réseaux de distribution très atomisés en France. C'est pas des films faits pour des grands distributeurs, et puis les petits distributeurs sont pas dans les mêmes réseaux que les producteurs, enfin bref, donc ils se connaissent pas. Et puis comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ces petits distributeurs sont extrêmement mal armés pour défendre ces films-là, parce qu'ils n'ont pas accès, enfin, pour eux, c'est un monde complètement inconnu. Ils voient que ça peut représenter éventuellement du public, parce que, ben, il y a eu la Manif pour tous, il y a eu des succès comme Des Hommes et des Dieux, La Passion du Christ, mais ensuite, comment je fais pour toucher ce public-là? Alors, c'est là où moi, je me suis dit, ben, avec l'expérience que j'avais dans l'édition, voilà, je me suis occupé d'Idées Vivantes, de l'Invisible, je connais assez bien, mais...
Voilà, vous êtes aussi dans un mouvement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous êtes dans un mouvement d'église, on peut dire, vous êtes dans, voilà, appartenez à la communauté
de l'Emmanuel,
hein, qui voilà. est une communauté très, très, très connue et reconnue, hein, importante, importante en France, quand même.
Du coup, voilà.
Voilà, donc il y a quand même un public, qui a des réseaux, qui a des prêtres, qui a des paroisses, qui a des diocèses aussi, parce que quand même...
Il y a quelques évêques, effectivement.
Qui sont de l'Emmanuel, donc ça aide un peu, quand même.
Exactement, enfin voilà. En tout cas, j'avais... Je savais que j'avais
accès. Il y a pas que les jésuites dans l'église, que je veux dire, si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, non, il y a plein de réseaux avec lesquels je suis en contact assez naturellement du fait de mon métier ou de mes métiers. Et du coup, voilà, je me suis dit, ben, peut-être que moi, je peux peut-être me lancer dans l'aventure. Après tout, ça ne va pas être plus compliqué que ça de distribuer. Alors, cela étant, c'est vrai que c'est un vrai métier.
C'est très compliqué parce que vous n'étiez pas distributeur. La
Sage faisait que
Sage faisait la production de films.
Oui, tout à fait. Mais enfin, pas de films de cinéma en plus.
Non, c'est des films de télévision. C'est
des documentaires.
Des documentaires très chouettes, très rigolos. Avec une petite série qui est passée sur KTO,
je crois.
Tout à fait, tout à fait agréable. Mais bon, voilà, vous étiez... Vous produisez, puis ensuite vous vendez, puis vous essayez de récupérer vos sous, quoi. Mais là, c'est autre chose. La distribution, c'est un autre métier.
Ouais, c'est un autre métier, et c'est un métier clé. En fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est ça aussi ça qui m'a poussé. C'est-à-dire qu'à terme, mon ambition, si je puis dire, ça serait de pouvoir produire des films de cinéma qui parlent du Seigneur. Pas seulement qui parlent de valeurs chrétiennes, mais qui permettent de peut-être de faire une expérience de Dieu ou d'entendre parler du Seigneur de manière forte, belle, touchante. Parce que pour moi, c'est vraiment un média extraordinaire, vraiment. Le cinéma est un média extraordinaire. Donc ça, un jour, j'aimerais bien d'arriver à cette phase-là. Ce que je constate, c'est que c'est bien beau de faire des films, mais si jamais on n'a personne pour les distribuer derrière, ça ne sert à rien. On peut se retrouver avec le plus beau film de la Terre. Si personne n'est là pour le distribuer, il restera dans sa bobine, si je puis dire. Donc je me dis que c'est pas plus mal de mettre en œuvre l'aspect distribution. Il y a plein de films étrangers pour l'instant, que j'envisage un jour de distribuer. Et puis même le fait même d'exister, je commence déjà à être contacté par des producteurs qui ont des projets pour 2015 sur des sujets vraiment de foi. Qui sont contents d'avoir quelqu'un qui va comprendre le film, qui va être capable de rejoindre le public naturel de ces films-là. Voilà. Donc on démarre, on verra bien ce que ça donnera après. Hein,
Mais vous avez. Alors ce qui est bien, c'est que vous avez prévu votre coup. Alors il y a beaucoup. Vous avez fait beaucoup de matériel. Hein, vous avez fait d'abord un site internet dédié à la promotion du film. Donc qui n'est pas seulement un film, un site où on peut voir la bande-annonce, avoir des petites affichettes et voir le visage des acteurs, mais c'est aussi quelque chose d'un peu interactif. C'est-à-dire vous essayez de faire que les gens participent à cet effort en leur suggérant, par exemple, ce que j'ai fait ce matin, d'ailleurs pour vous dire, la vérité, de laisser votre nom, votre code postal, votre ville et votre courriel pour dire j'aimerais voir le film
près de chez moi.
Ben voilà, ce sera très bien s'il sort à Toulouse. Je salue les auditeurs de Toulouse qui pourraient nous écouter sur Radio Courtoisie. Mais enfin, si le film ne sort qu'à Toulouse, évidemment, je ne pense pas que je vais traverser la France, moi parisien, pour aller le voir. Bon, tant plus que je me suis absolument interdit parce que j'ai eu beaucoup d'occasions de télécharger le film. On m'a envoyé des Daliens, des machins. Je m'y suis toujours refusé. Je n'ai pas vu le film. Hein.
Vous avez ma bénédiction, Roman Daniel.
C'est un péché. Donc, on ne peut pas faire ça. Je dispute mes camarades qui disent on ne savait pas que si on allait le voir et tout. Il y avait d'autres moyens de le voir, parce qu'on pouvait acheter le DVD quand même.
Normalement, on ne pouvait pas l'acheter le DVD, parce que le DVD, il était en vente qu'au Québec.
Oui, au Québec.
Aux États-Unis.
On pouvait avoir eu.
Il fallait passer par quelqu'un qui habite le Québec.
Bien sûr, mais ça peut se dézoner. Enfin, bon, il ne faut pas exagérer. Mais
pour tous ceux qui ont commis ce péché, Daniel.
Maintenant, on va avoir l'occasion, si on se mobilise, de le voir en salle. Et ça, c'est le.
Et pour tous ceux qui l'auraient téléchargé et l'auraient regardé en version pirate, ils pourront se racheter, je crois, en allant le voir en salle.
Oui, puis c'est pas la même chose de voir ça en salle. Avec l'ambiance qu'il y a.
Il y a une ambiance. Puis après, on sort avec des copains, on sort, on discute. Vous comprenez ? Bon, on peut pas.
J'ai eu l'occasion de le voir aux États-Unis.
Arnaud Boutet.
J'ai eu l'occasion de le voir aux États-Unis. C'est une expérience exceptionnelle. Et le voir en grand écran,
c'est clair.
C'est quelque chose d'extrêmement spectaculaire et en plus dans une dimension de foi très très profonde, très, très impactant. Ouais. Il y a quelque chose d'assez prophétique par rapport aux événements qu'on a pu vivre en France ces derniers mois. Et donc même tous ceux qui l'ont téléchargé, outre le fait d'expier leur péché, il faut y aller aussi comme un acte militant de soutien à l'initiative, au courage.
On ne se retrouvera pas seul. Il y aura un acte là aussi
Il nous reste encore 10 minutes.
Juste pour revenir à ce que vous disiez, Daniel, à propos du site internet, je précise juste, le site lui-même, www.christeros-lefilm.fr. Mais effectivement, pourquoi on est dans cette dimension participative ? Parce que la difficulté qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, les salles ne nous connaissent pas. Les exploitants des salles, ils voient arriver un distributeur totalement inconnu qui s'appelle Sage Distribution sur un film qui a déjà 2 ans, ce qui n'est pas forcément pour les rassurer. Et donc, quand ils ont à choisir entre ça et Avenger ou Spider-Man...
Oui, ça, c'est vous pouvez parce que c'est des noms de
c'est des noms, je me suis permis, là, ouais. Plébiscité par la Fox, Warner, etc. Le choix est assez vite fait. Et donc, il faut qu'on arrive à montrer à ces exploitants que, en fait, il y a vraiment un public qui attend ce film. Et donc, c'est un peu l'idée de ce mode d'inscription. Nous, ça nous permet, de dire aux salles, il y a 200, 300 personnes sur cette ville qui veulent voir le film, à qui on peut écrire quand le film va sortir dans la salle de leur ville. Et puis on invite aussi les personnes soit à s'inscrire, ça c'est une première chose pour qu'on sache combien il y aura de personnes à peu près sur telle ou telle ville, et puis ensuite éventuellement aussi à solliciter directement l'exploitant de la salle en disant quand est-ce que vous allez passer le film Christeros ? Parce que c'est ça qui va donner envie en fait à l'exploitant qui ne nous connaît pas de sortir le film chez lui, quoi.
Je trouve que c'est bien vraiment c'est une bonne stratégie, c'est une bonne stratégie qui est utilisée. C'est la première fois, je crois, qu'on utilise cette stratégie en France.
Exactement. Alors, elle m'a été inspirée Espagnol qui l'a faite pour ses propres films Cato, c'est le producteur et le distributeur et le réalisateur de La Ultima Cima et puis La Tierra de Maria, qui sont 2 films magnifiques. Et il a fait ça. Il n'avait pas trouvé de distributeur. Il s'est auto-distribué. Il a fonctionné comme ça avec un site participatif qui lui a permis de rester pour son premier film 9 mois à l'affiche.
Mais aux États-Unis, ça se fait souvent.
Ça se fait très souvent.
Oui, exactement. Mais ce qui est formidable, et ça rejoint ce que disait Benoît XVI quand il parlait de minorité créative. Je pense qu'on est là aussi, nous catholiques, pour remonter le courant. C'est que souvent, on parle de mercatique de l'offre. Et là, on est vraiment dans le mercatique de la demande.
De la demande.
Donc, il va y avoir un mouvement populaire militant pour aller voir les gens en disant « On veut ça, donnez-nous cette nourriture, ce film. »
Non, c'est un film...
C'est très inédit.
Très important. Je dis vite rapidement 2 choses, parce qu'on ne va pas raconter l'histoire des Christeros, mais l'histoire des Christeros, qui est une aventure, c'est magnifique, c'est quelque chose d'héroïque, ce qui s'est passé là-bas. Bon, ça a quand même quelque chose à voir aussi avec la Vendée.
C'est la Vendée mexicaine.
Ça y ressemble à une autre époque, évidemment.
Sauf que c'était il y a moins de 100 ans.
Il y a moins de 100 ans. Je m'étais permis, d'ailleurs, cher Hubert, de vous envoyer une petite information l'autre jour d'un prêtre mexicain. Je crois que c'est le plus âgé prêtre, il a 104 ans, qui continue encore à célébrer sa messe. Il est dans une petite chaise, mais enfin, il arrive encore à célébrer sa messe. Et qui a donc connu...
Il avait 16 ans au début de la guerre des Christeros, où
l'affaire des Christeros s'est...
Il y a encore des survivants de cette époque-là.
C'est quand même extraordinaire. Bon, Christeros, c'est 1926-1929. J'ai mis une petite fiche, parce que sur quoi, moi, vous savez, les dates et moi...
C'est pas un film... Moi, je pense que c'est aussi une belle occasion d'évangéliser, parce que c'est un film qui peut attirer tout un chacun, parce que il exalte aussi des valeurs de liberté face à l'oppression. Il y a un très beau casting, c'est très bien joué.
C'est ce qu'on reproche à ça, c'est le fait que cet État franc-maçon, on peut dire les choses comme elles sont, voulait interdire tout purement et simplement, comme les gens de la terreur sous la Révolution française, c'est exactement la même chose, interdire toute expression de la foi. Donc c'est un droit élémentaire de la personne humaine que de pouvoir croire et de pouvoir avoir la liberté de conscience et de culte. C'est quand même très important, et on voit aujourd'hui que cette liberté de culte, nous en parlons peut-être tout à l'heure avec Chesterton et l'islam, est aussi quand même passablement menacée dans le monde. Soit que tous les cultes soient interdits, soit qu'un culte particulier le soit, comme c'est le cas souvent, hélas, du christianisme dans le monde, ou dans les pays communistes, ou Corée du Nord, par exemple, où évidemment, là, tous les cultes sont interdits, sauf le culte de la tri qu'il faut rendre à la dictature des Kim, de père en fils et petit-fils même. Oui, Arnaud Boutet.
Non, et puis il y a des choses assez intéressantes quand on revoit le film. Il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord des étapes de manifestation. Il y a des étapes de pétition. Qui sont ignorés, et puis le film est régulièrement rythmé par des prises de parole, vous évoquiez les francs-maçons, enfin extrêmement laïcardes, du président mexicain, qui résonne un peu quand on écoute monsieur l'ancien ministre de l'éducation nationale,
plutocrate, comment il s'appelait le gars, le
Caïs,
Plutarque Caïs. Quand même, les parents, faut être cinglés pour donner un nom comme ça.
Donc il y a les guerres de Vendée, il y a une actualité aussi qui est pas si éloignée.
Non, il y a une grande actualité aussi. Moi, je trouve que cette idée, et c'est très bien, félicitations Hubert Torcy d'avoir pris ce risque. Maintenant, il faut que tout le monde collabore à l'œuvre commune, si je puis dire. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site christero-lefilm.fr en disant, voilà, je veux voir le film près de chez moi, hein, pas exactement. À 3000 km. Bon, ça aidera ensuite à, non pas à faire pression, mais enfin à négocier avec
à montrer qu'il y a un public.
Il y a un public. Alors si on est des milliers, comme je l'espère, à s'inscrire, eh bien ça veut dire que voilà, les gens diront, au moins on va faire une ou deux salles. Et puis après, ce qui est important, c'est que le film démarre. Parce qu'une fois qu'il démarre, après il y a le bouche à oreille. C'est comme ça que ça marche. Ensuite, il y a le bouche à oreille, et le bouche à oreille remplit vraiment les salles. Mais s'il n'y a pas au départ...
Ça peut s'arrêter au bout d'une semaine. Bouche à oreille arrivera trop tard, comme en Espagne.
Donc on a une responsabilité d'être des bons ambassadeurs.
Exactement. Donc alors, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, à partir du 14 mai, c'est un petit peu la raison pour laquelle cette émission qui vous est diffusée le jeudi 1er mai a été enregistrée avec un tout petit peu d'anticipation. D'abord parce que je pense qu'on n'aura pas... Il y a beaucoup de gens qui ne seront pas là pour à participer dans le studio à cette émission le 1er mai. Donc j'avais préféré anticiper mon affaire. Dès le 14 mai, le film sera en principe disponible en salle. Mais
il sera sans doute dans une cinquantaine de villes la première semaine, et puis après ça, on se déplacera.
50 villes, c'est beaucoup. Hein.
On espère. Il faut vraiment que les portes des UGC, des Gaumont, etc. s'ouvrent.
C'est beaucoup, c'est magnifique. Hein. Alors voilà, c'est une belle, très très belle initiative, dont je félicite bien sûr Hubert de Torcy, et j'espère qu'elle sera une grande réussite pour qu'ensuite il puisse y avoir d'autres réussites de cette sorte, parce que beaucoup de films sont actuellement ne sortent pas en France, y compris des films de nos voisins. Je vois, il y a deux films très intéressants qui sont sortis en Espagne, qui marchent pas mal en Espagne, qui traitent des persécutions des catholiques pendant la République espagnole, la guerre civile. Bon, il y a Sous le manteau d'étoiles, mais ça je donne le titre en français, puis un autre de film, deux films dont j'ai vu les bandes annonces.
Un Dios prohibido, moi j'ai vu.
C'est ça, le Dios prohibido. Dieu interdit.
Très beau film sur les massacres
des clarétiens. Le Dieu interdit, et puis ensuite, c'est un truc qui se passe dans un petit couvent de dominicains, je crois, s'appelle Sous le Mantel d'Estrellas, Sous le manteau d'étoiles, et c'est terrible. Et c'est un film qui ça marche très bien. C'est un très très bon film. En France, on risque pas de les voir. Donc ça peut vous donner des idées. Je vous enverrai des liens. Hubert de Torcy, merci beaucoup pour ces informations. Encore une fois, toutes mes félicitations. Et puis surtout, appel à nos amis auditeurs de Radio Courtoisie de se mobiliser pour dire qu'ils veulent voir le film. Et s'ils le disent, ils le verront.
Demandez, on vous donnera.
Christeros, le film, on a ce mot, .fr.
Voilà, sachant que Christeros s'écrit sans H. C-R-I-S.
Oui, l'espagnol, il n'y a pas de H. Merci, cher Hubert de Torcy, de toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de L'Invisible, le directeur de la société de production Sage, qui maintenant va devenir société de distribution de films. Et voilà, heureux, bientôt avec un grand cigare. Et ça va être magnifique.
Au moins, je pense pas.
Ah, j'espère. Quand vous aurez les cigares, appelez-moi. Donc, voilà. Alors, puisque nous parlions de l'invisible, et avant de nous entretenir avec le rédacteur en chef de Le Nouveau, quand même, qui existe aussi comme journal depuis très très longtemps, plus longtemps que l'invisible,
je vais vous dire
quand
même. J'étais abonné quand j'étais petit.
Et bon, vous n'êtes plus abonné maintenant.
Non, je veux dire par là que je le lisais quand j'étais jeune.
Ah bon, d'accord.
Alors que Philippe ne risquait pas de lire l'invisible quand il était jeune.
Je le confesse très volontiers.
Le journal est plus vieux que moi, parce qu'il est 46.
Il est 46, oui.
Moi, je suis 47, oui. Je ne suis pas tombé loin, mais enfin, voilà. Donc, ça fait quand même un bout de temps, quand même. Oui, ça y est, je vois ça. Vous calculez vite dans votre tête, une heure de temps, si, ça y est. Alors, on va se retourner vers l'autre camarade qui est ici dans le studio, donc Arnaud Boutéon, qui lui est professionnel des questions de on va dire de mercatique, hein. Je trouve que le mot est à vomir, mais enfin bon, on va utiliser mercatique, je ne sais même pas s'il est dans le dictionnaire. Je sais que
Bien sûr. Ben, normalement, c'est le mot que nous devons employer, mais que personne n'emploie.
Enfin, mercatique, ça fait quand même, excusez-moi, ça fait quand même. Ça commence mal et ça finit mal, hein. Il manque juste une lettre au milieu pour que ça, bon, ça soit la totale. Oh, c'est effrayant quand même. Bon. Alors, mercatique, très bien, allons-y. Alors, vous êtes en train de, cher Arnaud, de Boutéon, donc si, parce que vous toujours me donnez le prénom et le nom, hein, parce qu'on n'est pas à la télévision, nos noms n'apparaissent pas sur l'écran, hein, pas de sous-titres, hein, pas encore.
C'est pas comme pour les Christéros.
Pas comme pour les Christéros. Vous lancez une grosse opération avec l'Invisible d'un numéro spécial. Je rappelle que l'Invisible est un mensuel qui a maintenant 3 ans, 4 ans, bon. Qui est un mensuel gratuit en couleur, journal gratuit.
Il n'est pas vraiment gratuit, il est offert.
Oui, il est offert.
C'est-à-dire que quelqu'un l'a payé pour l'offrir ensuite.
Oui, c'est très important comme nuance.
La nuance est subtile.
Il faut qu'on arrête avec les gratuits.
Il y a une seule chose qui est gratuite, c'est la grâce de Dieu et les sacrements que la Sainte Église nous offre. Pour le reste, tout se paye. Et quand on vous dit c'est gratuit, c'est pas vrai. Quelqu'un l'a payé.
Oui, exactement.
Alors, pour ça, on peut continuer très bien. Donc, non, un peu de théologie de temps en temps, ça fait pas de mal, hein, quand même. Donc, Arnaud, vous lancez un numéro, vous préparez un numéro de l'Invisible qui va être consacré au football, à la balle au pied. Qu'est-ce que c'est que ça que c'est ?
Eh bien, écoutez, dans quelques mois, il y a un gros événement mondial qui s'appelle la Coupe du Monde de balle au pied ou de football.
On peut dire.
Et on était plusieurs. Moi, j'ai travaillé dans l'économie du sport. Et en même temps, je collabore à des projets missionnaires d'évangélisation. Donc, pour moi, il y a plusieurs facteurs aujourd'hui convergents qui peuvent nous conduire à promouvoir la pensée de l'Église sur le football, en particulier sur le sport en général. On a un pape François qui est un grand fan de foot, qui utilise beaucoup de métaphores sportives. Nous avons cette Coupe du Monde qui a lieu au Brésil. Le Brésil qui est le pays de la ferveur religieuse, le pays du football.
Et où il y a eu les Journées Mondiales de la Jeunesse.
Exactement,
passé.
Et qui accueillera en plus les Jeux Olympiques. Et puis, on est dans un pays, la France, qui est la fille aînée de l'Église, qui est aussi, on ne le sait pas, mais aussi la fille aînée finalement du football, parce que c'est un catholique qui s'appelait Jules Rimet, qui a créé la Coupe du Monde de football, qui a été président de la Fédération Internationale de Football. Donc il y a encore une fois de plus des racines dont on peut être fier, qu'on peut assumer. Nous avons des évêques qui aiment beaucoup le foot. On a un évêque qui est l'évêque de Saint-Étienne qui vient en sandales au stade de Saint-Étienne, Geoffroy Guichard, avec les dirigeants du club et avec ses ouailles assister au match de foot. Nous avons le directeur général du premier quotidien de France, sportif de l'équipe, François Morinière, qui également témoignera dans le numéro de l'Invisible, qui est un catholique fervent et pratiquant. Il y a un joueur de l'équipe de France de football, un des poumons de l'équipe de France de football, qui est catholique pratiquant. Donc voilà, vous voyez, ce sont toute cette convergence de facteurs qui m'ont conduit à vouloir monter ce projet et à choisir l'Invisible comme étant le meilleur support pour promouvoir la pensée de l'Église, une parole d'Église sur le terrain du sport. Les anglo-saxons parlent de « d'ambush marketing », je vais traduire, c'est le
donc,
marketing...
Oui, on a le droit, c'est des trucs techniques, ça.
Marketing de l'embuscade. C'est qu'on profite d'un événement pour pouvoir le prolonger. Voilà. Donc c'est assez astucieux, c'est un élément de stratégie, mais je pense, et je suis convaincu qu'il y a un vrai coup, COUP, missionnaire, à faire dans les mois à venir, pour surprendre. Il faut toujours surprendre l'adversaire en football, en politique, en tout. Donc pour surprendre et puis pour toucher les cœurs, parce que l'Église est la religion de l'incarnation, le sport c'est l'incarnation, c'est la religion du corps. Jean-Paul II par exemple a écrit plus de 200 discours sur le sport, il faut le savoir. Donc nous avons...
Lui, il était sportif.
Ah ouais, absolument.
Bon, Benoît XVI était plutôt cérébral, mais Jean-Paul II était quand même un sportif.
Sportif de Dieu.
Voilà, sportif de Dieu.
Mais ça. Benoît XVI a écrit des choses aussi très importantes sur le sport comme plateforme de révélation de la vertu humaine. Ce qui est intéressant dans le sport, c'est que ça révèle ce qu'est l'être humain en profondeur. Mmh. Le pire comme le meilleur. Ouais, le pire, on voit tous les excès.
On voit souvent le pire.
Et le meilleur, parce que c'est aussi un chemin de rédemption, le sport... Il y a de très belles choses dans le sport. Moi, je vais vous donner mon petit témoignage. Le paradoxe, c'est qu'en rencontrant des sportifs de haut niveau, j'ai été aussi ébranlé dans ma foi catholique par leur sens de l'ascèse. L'étymologie de d'ascèse, c'est l'athlète aussi. L'importance du rite, l'importance du geste. Aujourd'hui, dans nos églises, on oublie la beauté des rites et des gestes. Le paradoxe, c'est que parfois... ce sont des, entre guillemets, religions païennes qui peuvent nous les amener. L'importance aussi du coaching, de l'entraînement, de l'accompagnement, oui, parce qu'un sportif ne peut jamais réussir seul. Nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas réussir seul. Donc c'est aussi l'accompagnement spirituel. Il y a beaucoup d'éléments comme ça. Avant les grandes compétitions sportives, par exemple, il y a des séances vidéo où on revisite sa performance. Eh bien, nous, notre séance vidéo, ça peut être notre examen de conscience.
Oui.
Donc, il y a beaucoup de choses de parallèle. Et puis, si vous voulez, le sport, c'est le langage des jeunes. Don Bosco avait une phrase que j'ai mis un peu en exergue du dossier, qui est la suivante. Aimez ce qu'ils aiment, ils aimeront ce que vous aimez.
C'est beau.
Donc,
redites-le, cette phrase.
Aimez ce qu'ils aiment, ils aimeront ce que vous aimez. Donc, aujourd'hui, le sport et le football est un sport est extrêmement populaire. Il y a plus de 2 millions de licenciés. Donc l'enjeu de ce numéro, c'est de rejoindre nos concitoyens dans leur passion, et puis parce que les chrétiens doivent avoir quelque chose de plus, un charisme, un rayonnement, l'enjeu c'est de donner envie, eh bien on pourra conduire ces gens du football vers le Christ.
Alors je me demande pour si les auditeurs, parce qu'ici on a des auditeurs qui sont pas très, comme moi, qui sont pas très favorables à ballon au pied, tout ça, bon, enfin brassons. Mais enfin on peut quand même revoir avec délectation, je sais plus si c'est dans le... Je crois que c'est dans le Petit Monde, dans Camillo, ou dans l'épisode suivant où il y a une partie de balle au pied entre l'équipe de Don Camillo communiste là, et puis les petits cathos, quoi. C'est quand même assez rigolo. Et je veux dire que Don Camillo s'intéresse beaucoup au football. Et puis il y a quand même aussi, enfin tous les ans, une chose que beaucoup peut-être de nos éditeurs de Radio Courtoisie ne savent pas, il y a une coupe très très spéciale qui se passe à Rome, qui s'appelle la Clericus Cup, la coupe des clercs, qui mettent aux prises des équipes de football montées à partir des séminaires internationaux qu'il y a à Rome. Séminaires internationaux, alors il y a le brésilien, il y a le nord-américain, il y a le français qui se fait battre tout le temps, enfin les français c'est effrayant. Bon, et c'est très intéressant, et ça se passe vraiment avec toutes les règles qu'il faut jusqu'à ce qu'il y ait une coupe. Là c'est les Américains qui depuis 2 ans, c'est le North American Pontificate, c'est le collège, ça s'appelle un collège, enfin c'est le séminaire en fait nord-américain qui est de droit pontifical, où il n'y a pas que des Américains, il y a des Néo-Zélandais, des Australiens et quelques Anglais, et puis bon, il y a des Canadiens parlant anglois, donc faut pas exagérer quand même, mais enfin c'est eux qui depuis 2 ans se mettent la coupe, la Clericus Cup, donc on voit aussi que pourquoi pas. Donc
mais c'est intéressant, parce que alors qu'aujourd'hui on veut tout métisser, on veut oublier les frontières et les identités, le sport va glorifier quand même l'appartenance à un pays,
à
une équipe, à une identité nationale. Et à travers l'événement qu'est la Coupe du Monde de football, eh bien, on est tous traversés par des élans patriotes. On se reconnaît plus ou moins dans une équipe de France. Il n'empêche que l'équipe de France qui va concourir là au Brésil, il y a déjà 2 figures catholiques assumées. Chacun va s'y retrouver. Il y a une aventure collective.
Oui, il y a beaucoup de catholiques. Dans les autres équipes, il y a beaucoup de catholiques.
Exactement.
Aussi.
On parlait du Mexique tout à l'heure. Beaucoup d'équipes sud-américaines ont dans leurs accompagnements, je ne vais pas parler de staff, des aumôniers, qui suivent toute l'épopée, parce que bien entendu, le sport, c'est une métaphore guerrière, qui suivent l'épopée de ces guerriers du ballon, qui sont coupés de leur famille pendant 2 mois. Il peut y avoir des deuils familiaux, il peut y avoir des chutes, il peut y avoir des moments de grande réjouissance qui peut conduire aussi à des excès. Et l'aumônier va accompagner ces hommes, et il y a des chemins de conversion, il y a des catholiques fervents ou des chrétiens évangéliques fervents qui vont également parler du Christ aux autres joueurs. Il se passe des choses humainement assez fortes, tout en sachant que ça reste potentiellement aussi une structure de péché, parce qu'il y a beaucoup d'argent.
Bien sûr, beaucoup d'argent, et donc beaucoup de tentations, et tout ce qui vient avec l'argent, qui malheureusement, c'est la seule chose que le bon Dieu n'ait pas créé, c'est l'argent quand même. On peut dire que ça, c'est quand même effrayant. Non mais c'est vrai, c'est là où on commence à avoir un doute. Bon. Mais alors, j'ai lu, tiens, il faudrait que je vous envoie ça, cher Arnaud Boutéo, un petit lien que j'ai trouvé, je crois que c'était ce matin ou hier au soir, je ne sais plus, sur un site espagnol qui s'appelle Religion en Liberté, Religion en Libertad, qui fait un sujet sur le grand footballeur très connu, Kaka, il s'appelle.
Oui.
Kaka, accent grave, et qui est un garçon très très pieux et qui, avant tous les matchs, se met 24 heures quasiment en retraite. Quoi. Enfin, c'est très beau. Je vais vous envoyer
et
ça.
Alors, il a un petit bracelet Kaka sur lequel est inscrit ce que ferait Jésus à ma place.
Voilà, exactement.
C'est qu'avant de poser un acte, je sais qu'il y a des sœurs à Draguignan.
À Draguignan, les sœurs de la Consolation.
Les sœurs de la Consolation qui le diffusent, mes enfants l'ont. À chaque fois qu'on pose un acte, on peut avoir une tentation en pensée, en parole, ce que ferait Jésus à ma place.
Ça, c'est très. C'est d'origine américaine, hein. C'est la question que. Je trouve ça très, très, très beau. Bon. Bah écoutez, je trouve que c'est pas mal quand même comme initiative. Alors que ce va se composer de quoi le journal? De témoignages, de réflexions, de médiation? Il y a des prêtres qui vont intervenir, des évêques.
Oui, il y a beaucoup de témoignages. Ça sera le sport, c'est l'incarnation.
C'est dommage que Tarcisio Bertone soit plus secrétaire d'État, parce que vous auriez pu l'interroger. Parce que lui, c'était un tifo aussi. Hein.
Ouais. J'avais vu un grand fan de la Juventus de Turin.
Bah oui,
j'avais eu l'occasion d'être reçu. Il avait son ballon avec les autographes des joueurs. C'était assez impressionnant.
Le pape, lui, c'est une équipe argentine.
San Lorenzo. Voilà.
Bon, enfin, tout ça ne fait pas très universel. Ça fait comme un peu clochemerle. Mais enfin, bon, passons. Oui.
Alors, donc, il y aura énormément de témoignages d'entraîneurs, de témoignages d'évêques, de témoignages de prêtres, des débats sur le sport, sur le corps. Le sport est-il une religion? Oui, non, dans quelle mesure? Enfin, voilà. Sachant que la finalité reste vraiment une finalité missionnaire d'annonce explicite du Christ, mais en se servant du sport et de toute l'expertise qu'a l'Église dans ce domaine. Et cette expertise, elle l'a et elle continue à l'avoir.
Alors, si on veut en savoir un peu plus, est-ce qu'on peut vous appeler? Est-ce qu'il
vous
mettre un courriel? Alors, c'est un peu compliqué, on va donner...
Alors, je vais vous donner une adresse. Je vais vous donner une adresse très simple,
hein, parce
qui s'appelle...
Que ça, c'était compliqué.
footetfoi@gmail.com.
Alors, attends. Foot.
Foot et foi.
En un seul mot?
Oui.
Alors, arrobase, on dit arrobase.
@gmail.com. Vous pourrez recevoir un petit dossier qui vous expliquera les tenants et les aboutissants du projet. Voilà, foot.
Alors,
et foi.
Foot, F2OT et foi, FOI, @gmail.com.
Voilà, et votre serviteur vous répondra.
Arnaud Boutéon vous fera le.
Et vous enverra un beau petit dossier pour vous présenter.
Ce numéro est prévu pour quand et il sera disponible comment? Enfin,
Alors, il sera diffusé dans toutes les paroisse de France, s'il y a énormément de soutien à ce projet, et il sera diffusé avant la Coupe du Monde de football, donc début juin. C'est le numéro de l'invisible qui habituellement est diffusé à 150 000 exemplaires. Là, l'objectif, c'est de le diffuser.
D'accord, c'est pas un numéro spécial de l'invisible, enfin, c'est un numéro spécial par ses thématiques, mais c'est un numéro supplémentaire de
n'est pas un hors série.
C'est pas un hors série, merci de m'aider.
Il sera dans le calcul normal, mais voilà, il va être thématiquement, il va être lié à propos de l'événement qui va être comme un grand. Effectivement, ça va être la Coupe du Monde, va être un grand événement, ça c'est sûr, des millions et des centaines de millions de gens.
Du coup, c'est ça qui est
très populaire. Bon, regardez ça.
Donc, le but, c'est aussi de dépasser peut-être la diffusion habituelle.
C'est de passer de 120 000 exemplaires de diffusion à 500 000.
Oui, c'est un.
Donc, essayer de rendre très, 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 très massivement visible l'invisible, qui l'est déjà, mais de pouvoir aussi pénétrer de nouveaux territoires qu'un maximum de personnes puissent découvrir cette merveilleuse revue qui restera en plus dans les familles pendant plus d'un mois. Donc, ce qu'on dit aux différentes œuvres de jeunesse qui s'intéressent au projet, c'est que vous pouvez en commander. Donc, vous aurez tous les éléments sur footetfoi@gmail.com. Non seulement pour vous, mais aussi dans l'obligation, en tout cas dans l'invitation à le diffuser comme une opération de tractage à une personne de votre entourage, éventuellement une personne qui est sur le parvis, avec ce petit réflexe mais de prier pour elle, les yeux dans les yeux, en disant voilà, je te donne ce journal.
Non, mais il y a effectivement tous les clubs sportifs, oui, de foot par exemple, ouais, où nos enfants peuvent être.
Eh bien, vos enfants recevront et en distribueront.
Effectivement, c'est intéressant.
Les enfants, ils me tapaient dans le ballon, ça c'est sûr, donc il n'y a pas de...
Et on pense que le bon Dieu est heureux de voir les gens heureux de taper dans le ballon.
Bon, ça, je ne sais pas, là, c'est vous qui le dites, hein. Bon, j'en sais rien du tout. Hein, bon. Voilà. Alors, cher Arnaud Boutéan, merci beaucoup d'abord de cette initiative, des explications que vous avez données. Je renvoie donc aux auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus à foot et foi@gmail.com. Vous recevrez un petit dossier, mais je trouve que l'idée est très bonne, l'idée est excellente. Moi, je ne suis pas un grand sportif. Pas encore. Oui, parce que c'est pas mon âge que je vais faire du sport, je vais vous dire, ça va. J'ai mal partout, de toute façon. Donc c'est fini.
On va lancer un autre appel, là.
Pour aider Daniel. Donc deux petites informations avant de passer au sujet suivant, parce qu'il ne faut pas oublier quand même, je rappelle à nos amis auditeurs que le 15 juin, c'est la fête de la courtoisie. À Paris, donc à l'espace Champéret, dans le 17e arrondissement de notre capitale, et que c'est de 11h à 19h. C'est là où vous rencontrerez tous les auteurs qui se sont succédés dans les différents libres journaux de Radio Courtoisie, qui viendront vous dédicacer leurs ouvrages. Une fête qui est toujours très courue, c'est la plus grosse vente de livres à Paris. Et puis également, donc, j'annonce tout de suite puisque ça vient de sortir, on savait qu'il n'y en a rien installé encore, mais enfin, on ne savait pas qu'est-ce que serait le thème. C'était le 32e pèlerinage de Pentecôte de nos amis de Notre-Dame de Chrétienté, l'association Notre-Dame de Chrétienté, donc le pèlerinage traditionnel de Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de Chartres, qui se déroulera les 7, 8 et 9 juin prochains, sur le thème « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Vaste programme, aurait dit le général de Gaulle, quand même. C'est quand même bon. Voilà, donc on aura l'occasion, bien sûr, de les inviter.
C'est le programme de démarrage, oui, effectivement.
Voilà, c'est quand même pas mal. Bon, on aura l'occasion, évidemment, d'en parler avec eux. Et je crois d'ailleurs que c'est donc Monseigneur Marc Hayet qui célébrera la messe de clôture le lundi 9 juin à Notre-Dame de Chartres. Voilà, c'est bien quand même. Tout ça, c'est comme tout ça, vite, c'est beau, c'est tout ça aussi. Alors, c'est pas de la balle au pied, si vous voulez, hein, mais enfin, c'est.
Non, c'est
mais
au pied. J'ai quand même, c'est au pied.
Oui, mais voilà, quand on fait le pèlerinage de Pentecôte, on a balle au pied. Mais balle au pied, oui, parce que c'est un bon bout au pied. Bon, voilà. Alors, c'est. Je vais donc arrêter mes faces ici. On va rentrer dans les.
Ça va être difficile, ça, je pense.
Bah oui, mais enfin, bon, c'est.
L'arrêt des faces ici.
Je suis pas là pour ennuyer les auditeurs de Radio Courtoisie. On est là quand même pour dire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux, quand même. Ce qui est quand même le comble de l'élégance, non, Philippe Maxence?
Oui.
Vous êtes d'accord, hein?
Toujours. Alors, avec vous, Daniel.
Cher Philippe Maxence.
Surtout quand je passe dans votre émission. Quand vous êtes dans mon bureau, c'est autre chose. Mais bon.
Quand je passe dans la vôtre, je dis quasiment la même chose. Hein, parce que vraiment, on s'invite les uns les autres sans les descendre. Bon, alors.
Pas tant que ça.
Donc, Philippe Maxence, vous êtes le rédacteur en chef, je rappelle, de L'Homme Nouveau. Vous êtes un auteur connu.
Puisque vous parlez de L'Homme Nouveau, je rappelle quand même que. On y a fait allusion tout à l'heure, mais à propos des Christéros, qu'effectivement. Il y a la nouvelle édition de La véritable histoire des Christéros, qui peut être une bonne préparation en lisant ce livre, une bonne préparation pour aller voir le film. Et puis on peut aussi d'ailleurs par la suite le lire si on n'a pas eu le temps avant. Actuellement, son auteur Hugues Ali est en tournée en France et propose plusieurs conférences dont on peut avoir les dates et les lieux sur le site de L'Homme Nouveau. Ou site internet. Et en même temps, je voudrais signaler que nous avons sorti un hors-série qui s'appelle On ne lâche rien.
Ils n'ont rien lâché.
Oui, merci. On est bien aidés. Merci.
Bravo.
Donc, ils n'ont rien lâché. Pourquoi ils n'ont rien lâché? Tout simplement parce que nous retraçons quelques grandes figures pour faire court, parce que le concept est un peu biaisé, je trouve, mais enfin, de résistance chrétienne à travers les siècles, hein, depuis les premiers martyrs jusqu'à la résistance anticommuniste et jusqu'à ce qui s'est passé un peu plus récemment. Et notamment, nous avons aussi là tout un chapitre sur les Christéros. Voilà, tout ça est disponible.
À L'Homme Nouveau.
À L'Homme Nouveau, sur le site internet.
Par l'internet, là, voilà. Par les trucs, là. Donc, vous faites L'Homme Nouveau, vous tombez sur le site, parce que je l'ai peut-être pas ici, non. J'ai le site.
C'est www.hommenouveautoutattaché.fr, voilà. Donc c'est pas très difficile.
Voilà. Alors, donc, vous êtes également le directeur du blog Un nommé Chesterton. Alors, le site internet, c'est amisdechesterton.fr. Amisdechesterton.fr. Et vous nous proposez. un livre qui vient de paraître, que vous, d'ailleurs, que vous allez dédicacer le 3 mai
à la librairie Notre-Dame de France.
À la librairie Notre-Dame de France, donc
de 15h à 18h. Merci de me le rappeler.
Voilà, le samedi 3 mai.
Samedi prochain, donc.
Voilà, samedi prochain pour nos auditeurs qui nous écoutent en différé, mais ce sera bien le samedi 3 mai.
Samedi 3 mai.
L'émission est diffusée le 1er mai, chers amis auditeurs. Voilà, donc.
De 15h à 18h.
15h à 18h. Pour me faire dédicacer cet ouvrage de Philippe Maxence, Chesterton face à l'islam, avec un petit sous-titre que vous allez bientôt nous expliquer, qui s'appelle « Entre paradoxe et théologie ». Ce n'est pas votre premier ouvrage, d'une manière générale, parce que vous en avez une douzaine, je crois, et puis que vous en préparez encore d'autres, mais vous êtes, oui, non, vous êtes comme ça, quand même pas mal, 12, hein.
Non, il n'y a pas 12 ouvrages, il y a à peu près 8 ouvrages,
4, 5,
réellement de ma
6,
signature.
5.
Ensuite, j'en ai dirigé un certain nombre,
5,
ou collaboré un certain 8. Nombre.
Il y a 8 gros livres, voilà, si vous voulez, quand même, puis le reste, quand même.
Qui sont directement sous ma signature, uniquement sous ma signature.
Bon, 8 et 1, 9, alors on n'est pas loin de 10 quand même, alors commencez pas, ne mégotez pas.
Pour ce livre-là, Chesterton m'a beaucoup aidé.
Voilà, et alors, oui, ça c'est clair.
C'est un bon collaborateur.
Mais ce n'est pas votre premier ouvrage sur Chesterton, puisque vous aviez déjà publié un petit livre qui s'appelait « Pour l'enchantement du monde ».
Oui, alors ce qui est un essai, c'est une introduction à l'œuvre de Chesterton.
Après, il y avait « L'univers de Chesterton, petit dictionnaire raisonné » chez Via Romana en 2008. Et puis vous avez également préfacé un petit opuscule, c'était un espèce de petit conte, une petite fable très intéressante. L'inconvénient d'avoir deux têtes, qui était tout à fait un truc très très chouette. Là, maintenant, c'est Chesterton face à l'islam. Alors, entre paradoxe et théologie, vous pourriez nous préciser un peu
pourquoi c'est assez simple.
Sous-titre.
En fait, Chesterton est connu pour son utilisation assez habituel, bien qu'il le récuse par moments, enfin c'est un autre de ses paradoxes, donc par l'utilisation habituelle de la forme du paradoxe, c'est une de ses marques de fabrique, si je puis dire, et théologie parce que, en fait, je me suis rendu compte en me plongeant dans ce thème, dans cette approche de l'islam par Chesterton, qu'il avait à l'origine de sa vision sur la religion de Mahomet, il avait vraiment un regard théologique. Il n'est pas théologien théologien professionnel, mais il n'était pas non plus sans connaissance théologique. Il avait également dans son itinéraire personnel toute une évolution, puisque Chesterton est un converti, c'est l'un des très grands convertis du début du XXe siècle, qui est né dans l'anglicanisme et surtout dans l'unitarisme, et c'est là où en s'appuyant sur cette origine unitarienne, donc c'est une des hérésies chrétiennes, qui nie en fait la Trinité, qui nie que le Christ est réellement le Fils de Dieu, et c'est une hérésie un peu pluriforme qui existe depuis les origines du christianisme, qui est renée, qui a connu de nouvelles incarnations, si je puis dire, au XVIIe siècle, enfin à partir du XVIIe siècle, enfin dans toute la mouvance protestante, qui a fini par assez bien s'installer en Angleterre. Il se trouve que la famille Chesterton était unitarienne. Et ça a beaucoup de rapport avec l'islam.
Ça, évidemment.
Donc voilà,
un petit peu,
oui, effectivement. Et j'avais été surpris de lire dans certains ouvrages de Chesterton qu'il ne cessait de dire que les musulmans étaient des unitariens, en fait. Et je me demandais pourquoi. Donc voilà, c'est cette approche qui est d'abord une approche théologique, qui se traduit ensuite par une vision plus large, à la fois historique, littéraire, politique aussi de sa part, ce qui m'a conduit à donner ce sous-titre, Chesterton face à l'islam, entre des paradoxes, parce que c'est vraiment l'un des modes préférés d'expression de Chesterton, et théologie, parce que c'est vraiment son point de départ.
Alors, il y a cela, il y a effectivement, il le dit d'ailleurs quelque part, je crois que c'est dans la petite histoire de l'Angleterre, où il dit que l'islam ressemble assez à une hérésie chrétienne.
Il le dit souvent. C'est l'une des thèses. Alors, un certain nombre de spécialistes aujourd'hui de l'islam discutent de cette question. Est-ce que c'est vraiment une hérésie chrétienne? Est-ce que c'est pas autre chose? D'autres spécialistes tiennent aussi pour le fait que ça soit une hérésie chrétienne. Nous avons des textes assez anciens qui l'affirment. pour Chesterton, en tous les cas, c'était une, c'est sa façon de percevoir l'islam. Et je crois que cette façon de percevoir l'islam tient beaucoup aussi au fait que lui est né, encore une fois, j'insiste beaucoup, dans l'unitarisme. Oui. Il était unitarien. Donc cette absolutisation du Dieu unique... Alors évidemment, c'est important, hein, je suis pas là en train de le nier, mais le fait qu'on refuse que Dieu soit aussi relation, c'est-à-dire qu'il y ait une relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est-à-dire cette incapacité à voir que Dieu est amour, puisque pour aimer, il faut être au moins deux, si je puis dire.
Et bien, trois, une personne, une personne et la relation entre elles.
Est amour, effectivement. C'est ce qui a vraiment est au cœur de la démarche chestertonienne. Il l'a traduit ensuite dans divers écrits, essais. Il l'utilise dans l'un de ses grands essais qui s'appelle Hérétique, qui est qui date de 1905, qui est un essai qui l'a rendu extrêmement célèbre.
Il n'était pas encore catholique à cette époque.
Non, il n'était absolument pas catholique. Ce que je vous disais, c'est qu'il est né dans l'unitarisme, il a perdu la foi, il était païen, comme il dit, païen à 12 ans, agnostique à 16 ans, il a joué avec les tables tournantes, il a joué avec le diable, hein, très réellement, et il a dit ce qu'il avait vécu, l'expérience qu'il a vécue à ce moment-là lui a fait tellement peur, parce qu'il a senti une présence, pas parce qu'il ne s'est rien passé, parce qu'il a senti une présence qui était une présence de laideur et qui lui a fait peur, qui s'est calmé tout de suite et qu'il a arrêté de jouer avec les tables. Enfin, quand je dis jouer avec les tables, donc participer à des
spiritisme.
À du spiritisme. Ensuite, il a été ramené peu à peu à la fois anglicane par sa femme d'une part et par la, il était ami avec un anglo-français ou un franco-anglais, je ne sais pas comment dire. Hilaire Belloc qui était ce qui va devenir l'un de ses meilleurs amis, qui lui était catholique et qui a beaucoup fait pour le ramener vers la foi catholique, mais c'est passé par une étape précédente qui est l'anglo-catholicisme. Cette partie de l'anglicanisme qui participait en gros, enfin qui reconnaissait le principal de l'enseignement catholique, qui voulait utiliser le rituel catholique de la liturgie, mais qui niait en quelque sorte la primauté pontificale. Et puis finalement, en 1922, Chesterton s'est converti formellement au catholicisme, même s'il professait en fait depuis à peu près, on peut dater ça à peu près de 1908, il professait véritablement le catholicisme, mais il ne le pratiquait pas. Il était en quelque sorte un catholique de conviction, mais pas un catholique tout à fait pratiquant. En 1922, il se convertit réellement. Pourquoi il se convertit? Puisqu'on lui a demandé, parce que la confession pour lui a représenté un moment unique, où il dit c'est par la confession que d'abord je reconnais mes péchés, etc., mais que à chaque fois je retrouve, c'est un point important dans son œuvre, je retrouve l'esprit d'enfance, je retrouve cette innocence première. Et à travers cela, donc, il a fait ce choix du catholicisme pour d'autres raisons aussi, pour une cohérence, pour une adhésion évidemment à la doctrine catholique. Mais vraiment, il a beaucoup insisté sur cette importance du sacrement du pardon, de la confession. Voilà. Alors là, on s'éloigne effectivement à travers tout ça de l'islam. Mais très tôt, il s'est intéressé à l'islam, ce qui m'a aussi un peu.
Il n'a pas fait de traité sur l'islam.
De toute façon, Chesterton n'a fait aucun traité. C'est pas son mode d'expression. Voilà.
Mais il en parle dans de très 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 nombreux textes, des articles, de façon allusive, ce qui permet d'ailleurs à la fin de votre ouvrage de feuilleter un florilège.
Vous appelez c'est une manie que j'ai
d'offrir des
citations qui
c'est très agréable
qui illustrent le qui
voilà,
illustrent
on
le
a
texte.
plein alors c'est classé par l'alphabétique, alors vous avez Dieu, la culture, etc., la complexité, la conversion,
les femmes
et le vin, bon,
et le vin bien sûr,
le vin très important, et tout ce dont Chesterton a traité de façon longue ou très courte, sous la forme de parfois même de maximes dans différents ouvrages. Par contre, et c'est là qu'on va aborder vraiment la raison pour laquelle ce n'est pas c'est utile pour aujourd'hui. Je rappelle que Chesterton est mort en 1936, donc ça ne nous rajeunit ni voix ni...
Il est né en 1874 et mort en 36,
donc,
effectivement.
Oui, bon, c'est quand
en
même, 1936. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de temps qu'il est mort. Et pourtant, il y a quelque chose d'assez prophétique dans sa dans sa réflexion, dans son observation, dans ses réflexions parfois un peu paradoxales évidemment. Et par contre, c'est un sujet sur lequel il s'est un peu étendu dans un roman que j'ai lu, qui est vraiment intéressant, qui s'appelle L'Auberge Volante. Est-ce que vous pourriez nous parler?
Oui, bien sûr. Alors,
c'est comme le gros morceau, je dirais.
Non, c'est une chose que je récuse. Même si L'Auberge Volante est un moment important de cette approche de l'islam, effectivement, plusieurs personnes que je cite, et d'ailleurs parce que leurs travaux sont vraiment très intéressants, pensent que Chesterton n'a parlé de l'islam que dans L'Auberge Volante. Or, L'Auberge Volante est d'une part un roman. C'est ce qui m'a surpris en le relisant, c'est le camp des saints. On peut le comparer au camp des saints de Raspail, sauf qu'il y a une dimension tragique dans le camp des saints de Raspail, une dimension désespérée même dans le camp des saints de Raspail, qu'on ne trouve absolument pas dans la démarche de Chesterton, qui lui était vraiment un être habité par la joie, par la certitude de l'espérance, et donc ça donne une autre dimension. Mais le camp des saints, l'auberge volante, c'est l'histoire tout simplement après la guerre des Balkans en 1912-1913. Maître Triomphe vient d'arriver.
Oui, voilà.
On va pas lui faire un triomphe tout de suite, il va attendre. Pour l'instant, je parle. Et donc, L'Auberge Volante se passe après la guerre des Balkans 1912-1913 et, raconte en quelque sorte la pénétration à travers l'action d'un Turc qui se fait passer pour un prophète, la pénétration de l'islam dans la vieille Angleterre. Et cette pénétration de l'islam se traduit par une interdiction des auberges. Et donc pour résister à cette interdiction, pour ne rien lâcher de ce point de vue-là, un Irlandais qui a fait partie de l'armée, un capitaine d'Alroy, emprunte plus exactement une enseigne d'auberge et se fuit à travers le pays avec cette enseigne et à chaque fois invite les populations à venir boire des boissons un peu fortes, puisque l'auberge peut comme ça se déplacer à travers le pays et échapper aux recherches policières. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'elle est vraiment prophétique à mon sens. Non pas seulement parce qu'elle parle d'une invasion trop forte de l'islam, mais parce que elle dit que elle met en scène cette invasion grâce au concours de ceux qui veulent faire de l'argent, de ceux, enfin, que Chesterton appelle les libéraux, en fait, ceux qui sont pris par le libéralisme économique, qui n'ont qu'une finalité, c'est la croissance, c'est la réussite financière, etc., et qui de là sont prêts à tout abdiquer, sont prêts à abdiquer les traditions nationales comme les pubs en Angleterre, sont prêts à abdiquer tout simplement la liberté concrète des familles, des petits artisans, à vivre et à faire vivre leur famille, de abdiquer même l'indépendance de leur pays pour, sous prétexte de à la fois de faire de l'argent, et puis il y a un autre prétexte aussi qui lui donne une certaine résonance, de donner une vision très hygiénique de la vie. Tout d'un coup, il faut se protéger de tout. Il faut se protéger évidemment de la boisson, il faut se protéger du tabac, il faut se protéger de tout.
Il faut manger, de la vitesse, boire tant d'eau, manger tant de fruits, tant de légumes,
voilà, machin. Et il y a, bien que ce roman ait été écrit avant la guerre et même dans les années 20, il a des résonances assez étonnantes avec notre époque.
D'ailleurs, je vous cite, hein, parce que c'est quand même, c'est vous qui l'avez écrit, donc je vous cite. Hein. Chesterton a cessé de noter l'étrange paradoxe des politiques modernes, il est mort en 1936, hein, le camarade, hein, qui visait à la fois à dessaisir les citoyens de leurs responsabilités et à imposer aux mêmes des garde-fous étatiques permanents sous l'influence de certains monopoles commerciaux, que nous nommerons pas ici parce que nous sommes sur Radio Courtoisie. Eh bien, la situation n'a cessé, je dirais, d'empirer, et elle n'a cessé, elle nous montre plus évident que le pif au milieu du visage, que ça, c'est la vérité, que Jess Hutton avait infiniment raison de dire ces choses-là.
Voilà. Alors, L'Auberge Volante est un roman important pour comprendre sa vision de l'islam, enfin, pour plutôt voir sa mise en scène de l'islam, mais en fait, on trouve réellement son approche de l'islam dans ses essais. Donc, j'ai cité Hérétique, mais on peut notamment citer un autre, c'est un récit de voyage plus exactement, qui s'appelle La Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, c'est tout simplement le voyage de Chesterton en Terre Sainte, où il va à la découverte à la fois du monde juif et du monde arabe, et qui est principalement musulman, pas uniquement évidemment, et ça il le fait bien ressortir, et à travers cela il retire, à travers ce voyage il écrit pour son journal un compte-rendu hebdomadaire, il retire des enseignements sur ce qu'est réellement ce qu'il appelle la religion de Mahomet, donc cette le fait qu'elle se concentre sur sur cette unicité de Dieu, il en tire un certain nombre de considérations qui seraient trop longues ici à expliquer, mais que Chesterton met en scène donc dans ses divers écrits et notamment dans ses citations que j'ai voulu donner. On retrouve également dans d'autres ouvrages que l'Auberge Volante ou la Nouvelle Jérusalem, on retrouve effectivement d'autres approches de l'islam par Chesterton. Et puis il y a son grand poème aussi, qu'on peut citer, qui s'appelle Les Pentes, hein, qui est un poème épique, dont on dit que les soldats de 1914, c'est un autre clin d'œil à l'actualité, hein, les soldats anglais en 1914, en le recevant, on a appris des passages entiers et sont montés au combat en le récitant, et souvent sont morts en le récitant, malheureusement. Les Pentes fait évidemment référence à cette grande bataille navale qui est mise en face les armées chrétiennes dirigées par Don Juan d'Autriche et à la demande du pape Saint Pie V, et
pas toutes les armées chrétiennes,
pas toutes les armées chrétiennes, puisque malheureusement la France a brillé, si je puis dire, par son absence en face, donc les armées musulmanes, et on sait que grâce notamment aussi à la prière du rosaire, la victoire a été donnée aux forces chrétiennes.
Je peux, pour conclure, citer Chesterton, parce que c'est une très belle citation de notre cher auteur là, qu'on trouvera à la page 151 de ce livre Chesterton face à l'islam de Philippe Maxence, publié chez Via Romana, que vous pourrez vous faire dédicacer, amis lecteurs, le 3 mai, pendant tout l'après-midi. Et c'est une très très belle chose. Alors je le fais parce que, commencement, je suis un petit peu roussophile, donc je vais lire cette belle citation de Chesterton. Et à propos de l'épandre, justement, hein, toutes les autres nations ont fait alliance avec le Turc, c'est-à-dire avec le Mongol et le musulman. La France s'en est abritée contre l'Autriche, comme des pièces de canon. L'Angleterre les a chaudement soutenus sous le régime de Palmerston. Les jeunes Italiens eux-mêmes ont envoyé des troupes en Crimée. Quant à la Prusse et à sa vassale autrichienne, il est à cette heure superflu d'en parler. Son ouvrage s'appelle La Barbarie de Berlin. Donc,
oui, il paraît en 1914. Ce n'est pas son meilleur livre.
Hein, meilleur,
c'est un livre de propagande quand même.
Pour le bien ou pour le mal, c'est un fait historique que la Russie est la seule puissance de l'Europe qui n'a jamais défendu le croissant contre la croix. Je trouve que c'est quand même une très belle citation. On pourrait l'envoyer à mon camarade Poutine.
Ben, je vous laisse la responsabilité de ce propos et éventuellement de cet angoisse. Mais puisque vous avez fait une citation, vous me permettrez d'en faire une autre
bien
pour
sûr,
terminer. Elle
n'est
pas de Chesterton, mais je l'aime beaucoup. On a parlé tout à l'heure à propos de la balle au pied ou du football, d'incarnation. Effectivement, c'est un point important de notre religion. J'aime bien cette citation d'Hilaire Belloc qui vient d'un de ses poèmes, où il dit « Partout où brille le soleil du catholicisme, on trouve l'amour, les rires et le bon vin. » On ne trouve pas tout à fait le foot, mais le foot...
On y retrouve.
Voilà.
Troisième mi-temps, c'est ça.
C'est
exactement.
Voilà, c'est quand même, c'est très très beau. Et ben, je vais peut-être vous en sortir une autre de citation qui est à ce que je dis aussi, puisque nous sommes en train de cette espèce de battre. Donc, on est
on peut combattre là, effectivement.
Le tennis là, alors donc on va faire comme ça. Non, mais ce sera la dernière. Après, c'est fini, on coupe. Hein. Voilà ce qu'il disait aussi, parce qu'il y a beaucoup de sorties sur un peu sur l'alcool, sur la bière, sur le vin aussi. Et il dit Et ça, elle est bien, celle-là, personne ne pourra nous le... Nous, même le CSA va être tout à fait d'accord avec ça. Nous remercierons Dieu pour la bière et le Bourgogne en n'en buvant pas trop, disait Chesterton.
Ouais, ça s'appelle juste la vertu de tempérance.
Voilà, c'est la tempérance. Bon. Merci beaucoup, Philippe Maxence, pour ce magnifique petit livre qui ouvre... Lisez-le, parce qu'il y a quand même beaucoup de commentaires qui sont faits. Vous avez trouvé des textes très intéressants aussi de spécialistes de Chesterton. Ça ouvre un peu de perspective sur...
Oui, et puis il y a plusieurs chapitres qui permettent, avant le florilège, qui abordent cette question à travers certaines thématiques. Je peux me permettre peut-être de renvoyer au site des Amis de Chesterton.
Bien évidemment, je l'ai donné tout à l'heure. Amis au pluriel de Chesterton, tout lié, amisdechesterton.fr.
Voilà, où chaque jour est publiée
une petite citation
très, très chouette, qu'on ne trouve pas dans les livres, mais voilà, qui permet
d'autres, d'autres informations aussi.
Et puis d'autres informations, et nous avons là, en vente ce livre.
Donc, Chesterton face à l'islam, Philippe Maxence, Via Romana, ça vaut 13 euros. Vous pouvez vous l'acheter ou le faire dédicacer le 3 mai à la librairie Notre-Dame.
Ou par le biais du site.
Ou par le biais du site, où là, vous pouvez avoir une édition numérotée pour les premiers. Et puis,
pour les 50 premiers, mais.
Dédicacée, donc c'est quand même.
Ça part bien.
Ça part, bon, peut-être que le 1er mai. Comme nous enregistrons.
Il en restera certainement.
Le 16 avril, peut-être, il n'en aura plus. Ça, c'est possible. Alors, je me tourne maintenant. Merci, Philippe Maxence. Maintenant vers notre ami maître Jérôme Triot, avocat de Paris. Bonjour, bonsoir, maître.
Bonsoir, cher Daniel.
C'est heureux de vous avoir. Donc, aujourd'hui, c'est bien parce que nous en préenregistrons cette émission qui va être diffusée le 1er mai, comme vous le savez. Je ne vous ai pas pris.
Ah oui, oui.
Enfin, vous n'êtes pas venu au hasard comme ça dans le studio.
J'ai bien compris.
Donc, nous sommes.
Il a beau être avocat, il a compris quand même.
Compris quand même. Le mercredi 16 avril, le mercredi étant le jour des enfants, donc alors j'ai beaucoup de plaisir à vous recevoir dans mon studio pour le jour des enfants.
Merci, c'est un plaisir partagé.
Alors, je vais vous laisser, vous avez une petite chronique à nous faire, donc eh bien nous allons l'écouter religieusement.
Oh, écoutez, c'est plus qu'une chronique, ça va être un petit florilège de quelques brèves de prétoire. Parce que j'ai eu...
Décidément.
Brèves de prétoire.
De prétoire. J'ai eu une semaine un peu chargée, je n'ai pas eu le temps de rédiger une chronique, parce que mine de rien, une chronique, c'est quelques heures quand même de travail, hein, quand on veut faire les choses sérieusement. Là, je m'en rapporte à quelques ouvrages que j'ai amenés, et notamment aux brèves de prétoire rédigées, enfin recueillies plutôt par mon confrère Emmanuel Pierrat, qui pour n'être pas de notre paroisse et de nos idées, puisque je l'ai eu comme adversaire dans la du frac de Lorraine, et contre qui j'ai brillé, je crois que j'ai gagné, on peut le rappeler, eh bien, il n'en reste pas moins un excellent confrère qui a recueilli ces brèves de prétoire qui se passent de génération en génération d'avocats et qui nous font toujours autant rire. Alors, c'est parti pour quelques brèves de prétoire. L'avocat à l'audience. Vous m'arrêterez parce que là, j'en ai quelques centaines. J'avais prévu de faire ces brèves de prétoire depuis longtemps. J'en glisserai quelques-unes de temps en temps dans une chronique au hasard de l'une ou de l'autre. L'avocat interroge l'accusé. Elle avait 3 enfants, c'est exact? L'accusé, oui. L'avocat, combien étaient des garçons? L'accusé, aucun. Y avait-il des filles? Demande l'avocat. L'accusé, monsieur le juge, je pense que j'ai besoin d'un autre avocat. Est-ce que je peux avoir un autre avocat, s'il vous plaît? Autre brève. L'avocat, comment votre premier mariage s'est-il terminé? Le témoin, par le décès. L'avocat, et par le décès de qui s'est-il terminé? Le témoin, devinez. L'avocat, pourriez-vous décrire l'individu? Le témoin, de grandeur moyenne avec une barbe. L'avocat, était-ce un homme ou une femme? Le témoin, à moins que le cirque fût en ville, je vais dire un homme. L'avocat, docteur, combien de vos autopsies avez-vous faites sur des personnes mortes? Le témoin, donc médecin légiste, vous l'avez compris, toutes les vivants se débattent trop. L'avocat, vous souvenez-vous de l'heure où vous avez examiné le corps? Le témoin, l'autopsie a débuté vers 20h30. L'avocat, et monsieur Danton était mort à 7h? Le témoin, qui est médecin légiste, vous l'avez encore compris, en tout cas il était quand j'ai fini.
Quelle horreur.
L'avocat, êtes-vous qualifié pour un prélèvement d'urine? Le témoin, êtes-vous qualifié pour poser cette question? L'avocat, docteur, avant de procéder à l'autopsie, avez-vous vérifié le pouls? Non. L'avocat, avez-vous vérifié la pression sanguine? Non. L'avocat, avez-vous vérifié la respiration? Non. L'avocat, alors il est possible que le patient fût vivant lorsque vous avez commencé l'autopsie? Non. Comment pouvez-vous en être si sûr, docteur? Parce que son cerveau était dans un bocal sur mon bureau. L'avocat, je vois. Mais est-ce que le patient ne pouvait pas être quand même encore en vie? Le médecin légiste, oui, c'est possible qu'il soit en vie et fasse le métier d'avocat. Il y en a quelques-unes, j'ai encore deux minutes pour amuser nos auditeurs. Voilà. De temps en temps, c'est vrai que la Semaine Sainte. Ah ben non, mais on est en Semaine Sainte, en pré-enregistrement.
Ah, en pré-enregistrement.
Mais le 1er mai, nous serons dans la.
Ah, c'est Saint-Joseph artisan.
Et nous serons même dans l'octave pascal.
On se retrouve dans l'octave, oui.
Oui,
plus que dans l'octave.
Alors voilà, même plus au-delà, oui, c'est le 20 avril.
Post-octave.
Voilà. Alors encore quelques-unes. Le président de la cour d'assises, comment avez-vous eu l'audace de revenir au milieu de la foule sur les lieux de votre dernier crime ? L'accusé, vous verrez que les brèves de prétoire ne sont pas toujours dénuées de bon sens. L'accusé, c'est bien simple. J'avais passé la journée à boire dans plusieurs cafés de la ville et j'avais entendu tant de versions différentes que j'ai fini par croire que ce n'était pas moi.
Est-ce qu'elles sont datées
c'est Non, elles ne sont pas datées, mais quand on lit des mémoires d'avocats, on en retrouve certaines. Certains avocats disent qu'ils les ont entendues, je ne suis pas sûr que ce soit toujours vrai. Mais voilà, il y en a peut-être certaines qui sont inventées. En tout cas, la tradition nous les rapporte régulièrement, ça nous fait toujours aussi, autant rire. Le prévenu, il prétend que je lui ai volé sa montre en or, c'est doublement faux. Je ne la lui ai pas volée, et en plus elle n'était pas en or. Et ça, je vous jure qu'on entend des choses comme ça. Hein. Alors nous, on résume ça par une autre formule. Monsieur, vous avez été pris la main dans le sac. Monsieur le Président, d'abord c'était pas ma main, et ensuite il n'y avait pas de sac. Voilà. Le Président, monsieur, la cour ne vous autorise pas à témoigner en mâchant de chewing-gum. Mais monsieur le Président, ce sont des pastilles contre les maux d'estomac dont je souffre. C'est vous qui faites souffrir la cour de maux d'estomac. Ça tombe bien, il m'en reste deux. Vous les voulez ? Le président, vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité ? Aussi vrai que vous êtes assis entre avec vos deux employés derrière votre comptoir, monsieur. Le président a un témoin. Et où vous habitez ? Avec mon frère. Et où habite celui-ci ? Avec moi. Donc vous habitez ? Ben, ensemble. Une affaire scabreuse avait attiré foule dans une salle d'audience. Le président, je ne veux pas ordonner le huis clos qui paraît inutile au tribunal, mais je prie les femmes honnêtes de sortir. Personne ne bouge. Le président reprend alors la parole. Maintenant que les honnêtes femmes sont parties, garde, faites sortir les autres. L'avocat, ma cliente est une femme honnête. C'est une mère de famille, son fils de 5 ans est toujours dans ses jupes. Le procureur l'interrompant. Eh bien, il va s'y faire de drôles de relations. J'étais en état de légitime descente, monsieur le président, je l'ai donc descendu. Voilà, je pourrais vous en dire d'autres. Vous en aurez d'autres pour les prochaines. Je crois qu'il nous reste,
il nous reste encore 4 minutes.
4 minutes. Bon, allez, encore une petite. Allez. Oh ben non, j'en ai plus. Si, je vais terminer sur une petite histoire.
Une petite histoire.
Parce que
d'abord, comment va madame votre épouse?
Eh ben, madame mon épouse va bien.
Voilà, excusez-moi, c'est un petit peu privé tout ça, mais les auditeurs savent que vous êtes...
Mais on peut sortir.
Oui, oui. Et d'ailleurs, je remercie les auditeurs qui nous ont adressé leurs félicitations après avoir écouté ma dernière chronique.
Mais vous êtes très, 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 très célèbre sur Radio Courtoisie. Et alors, les gens s'intéressent beaucoup à votre vie familiale. Donc, vous aviez déjà deux petites filles, ça
c'est... Non, une grande fille.
Une grande fille.
Et deux petits garçons.
Là, il y en a un autre qui est arrivé.
Et ça fait 3 garçons.
Ah, c'est pas mal quand même.
Bah oui.
Donc, vous avez 3 enfants, quoi, dans le fond.
Et 4
hein, non.
Oui, mais attendez, je vais vous mettre dans les brèves de comptoir, de prétoire, moi aussi. Ou de comptoir, plutôt. Il
faut compter les filles. Ça sera peut-être plus adapté, effectivement.
Voilà, une dernière petite histoire. Donc, tout le monde va bien, effectivement. C'est sur l'évolution des temps et des mœurs. Vous savez que les avocats sont égaux devant les tribunaux et que pour manifester cette égalité, nous portons tous une robe qui est noire. Alors récemment, un excellent confrère s'est offusqué de ce que certains avocats arborent parfois de vraies plaques de généraux soviétiques avec toutes leurs décorations sur la robe, ce qui, il me semble qu'il a raison, n'est pas conforme avec le principe de l'égalité des avocats. On n'a pas arboré ces décorations, il me semble, mais on peut en discuter. Et il rappelle dans ce... Je ne me souviens plus quel confrère qui a écrit ce petit mot qui a été diffusé à l'ordre, qui a suscité beaucoup d'émotions, parce que certains avocats sont très très attachés à leur décoration. En tout cas, dans nos milieux, ça ne se fait pas. Il y a une époque où l'égalité des avocats allait bien au-delà des questions de décoration. Et l'égalité s'étendait même au système pileux, figurez-vous. Ça a été rapporté par l'avocat général Lyon-Camp le 16 octobre 1936 à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation. Et il rappelait que le 6 août 1844, la Chambre des requêtes, donc l'ancienne Cour de cassation, se prononça sur le pourvoi formé par deux avocats que le tribunal d'Ambert, donc en Auvergne, sauf erreur, avait condamné pour atteinte à la dignité de la justice et manque de respect envers les magistrats parce qu'il s'était présenté à l'audience avec des moustaches. Pour le rejeter, le pourvoi, la Cour suivit l'opinion de son conseiller rapporteur pour lequel le port de la moustache à l'audience par des avocats revêtus du costume officiel était peu en harmonie avec ce dernier, d'autant que tout le monde sait que la moustache n'est d'usage que parmi les militaires et que si elle est portée exceptionnellement dans l'ordre civil, elle n'est admise ni dans la magistrature ni parmi les avocats.
C'était comme une grande époque.
Au poil, non.
Au poil, oui, oui, oui.
Comme concluait cet excellent confrère.
Merci, cher maître Triomphe, pour toutes ces brèves formidables de prétoire. Nous nous retrouvons donc dans 4 semaines à mes auditeurs, c'est-à-dire le 29 mai, et avec en direct, j'espère, hein, notre ami maître Jérôme Triomphe pour de nouvelles aventures, à défaut de nouvelles facéties. Merci Philippe Maxence, merci Hubert de Torcy,
merci Daniel,
merci Arnaud Boutéon d'avoir partagé ce moment avec nous. Et puis nous nous retrouvons donc dans 4 semaines, d'ici là bien sûr, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de Chrétienté, dirigé en première partie par Guillaume de Thieulois et en seconde partie par Daniel Amiche. Émission préenregistrée le 16 avril 2014 et le 30 avril 2014, diffusée pour la première fois jeudi 1er mai 2014 de 18h à 21h. Il est diffusé également vendredi 2 mai dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal a été réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.